Bienvenue dans le podcast Focus Immo Pacifique, le podcast qui va à la rencontre des investisseurs et professionnels de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Vous souhaitez commencer à investir dans l'immobilier ou trouver de nouvelles sources d'inspiration pour vos projets? Ce podcast est fait pour vous.
Diplômé de l'école de gestion et de commerce de Nouméa à 19 ans, Alexandre Rodriguez décide de créer sa propre agence immobilière, Top Immo, à Nouméa, dans le sillage de son frère qui ouvrit 4 ans plus tôt l'agence VKP Immo dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Il nous raconte l'histoire de son premier investissement locatif à plus de 10% de rentabilité et nous explique la stratégie qu'il a adoptée pour y parvenir. Alexandre vous dévoilera également une stratégie inédite en lien avec la vente de biens aux enchères qui permet in fine à la personne saisie de retrouver son bien tout en assurant à l'investisseur de dégager un bénéfice. Découvrez enfin le métier de marchand de biens, les avantages et les contraintes inhérentes à ce métier en Nouvelle-Calédonie. Sans plus attendre, accueillons Alexandre Rodriguez.
Alexandre Rodriguez, merci pour ton accueil dans l'agence Top Immo, aujourd'hui dans tes locaux pour la réalisation de cet épisode du podcast Focus Immo Pacifique. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu, puisque je crois que tu es plutôt jeune, tu as l'air en tout cas très jeune, tu as créé ton agence, je crois, avec ton frère. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui vous a amené à faire ça et comment vous vivez cette expérience aujourd'hui?
Alors, on a commencé ça il y a 4 ans, donc dans le Nord initialement, à Koné. L'agence s'appelait VKP Immo, donc on était que tous les deux au départ. On a eu les cartes de gestion locative et transaction.
D'accord.
Du coup, on pouvait à la fois être mandaté pour parler propriétaires pour vendre leur bien ou bien le louer. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant un an et demi tous les deux. Ensuite, on a engagé une personne. Et par la suite, je suis venu sur Nouméa il y a maintenant 2 ans. Et on a monté l'agence Top Immo qui fait aussi la même chose, donc gestion locative et transaction.
Ok.
Et aujourd'hui, donc, on a ces deux agences et on est 7 au total, nous comprenant, donc, pour la gestion locative et la transaction sur tout le territoire.
D'accord. Et du coup, tu as quel âge aujourd'hui?
Alors, j'ai 24 ans.
Ok.
J'ai fini le GC, donc l'école de gestion de commerce, à 19 ans. Donc, okay. Et tout de suite après, on a...
C'est une école, donc l'école de Nouméa?
C'est ça, c'est l'école qui a la CCI.
Et du coup, une fois ton diplôme en poche, toi, tu savais déjà ce que tu voulais faire? Tu voulais ouvrir une agence immobilière? C'était quoi le processus qui t'a amené vers l'immobilier?
C'est mon frère initialement qui gérait une agence dans le Nord pour le compte d'une autre personne. Et qui souhaitait se mettre à son compte. Et donc voilà, c'était l'opportunité de collaborer ensemble.
Ok. Et le fait qu'il y ait autant d'agences à Nouméa, ça ne vous a pas effrayé de pouvoir ouvrir une autre agence comme ça?
Comme on le voit avec les échanges avec les clients, même s'il y a beaucoup d'agences immobilières sur le territoire, on arrive... à se distinguer parce qu'on peut être disponible peut-être à des horaires où les autres ne le sont pas.
Okay.
On peut être réactif quand les autres ne le sont pas forcément. Donc la concurrence est saine et ça nous permet toujours d'essayer de trouver de nouvelles dynamiques pour se différencier des autres.
Ok. Voilà. Et du coup, toi, ton niveau, est-ce que tu as déjà investi dans l'immobilier? Est-ce que tu peux nous raconter peut-être de ton parcours en la matière? Si tu as déjà investi, je pense encore une fois, c'est un premier investissement que tu as dû faire très jeune. Et on dit souvent que c'est bien d'investir tôt, puisque dans l'immobilier, le temps joue en la faveur des investisseurs. Et donc, est-ce que tu pourrais nous raconter, puis nous donner comme conseil aussi aux jeunes justement qui souhaiteraient peut-être un peu investir aussi, comme toi tu l'as fait?
Alors, quand je débutais à Koné, du coup, mes parents habitaient là-bas, donc j'habitais chez mes parents toujours en même temps que je travaillais. Et du coup, c'est vrai qu'étant un jeune billet, on est les premiers au front pour avoir les bonnes informations. Et c'est vrai qu'on a eu la possibilité d'acheter un ensemble d'habitations avec mon frère et un autre associé, donc à un prix attractif à l'époque, donc c'est il y a 2 ans et demi, 3 ans.
Ça, c'était sur Coney ?
Sur Coney, oui.
Ok.
On a réalisé les travaux et ensuite, donc voilà, aujourd'hui, c'est des logements qui sont loués.
Ok.
Et avec une rentabilité, sans parler de chiffres exacts, de savoir combien on a acheté, mais on a des rentabilités entre 10 et 12%
okay.
de rentabilité. Donc c'est,
c'est intéressant.
La norme est à peu près à 5-6 ici,
ouais, tout à fait.
Pour des investissements classiques. Des bons rendements sont à hauteur de 8. Alors, dès lors qu'on est à 10, 12, on est okay. vraiment sur des investissements.
Rendement net, du coup, je veux dire, comment tu calcules au niveau où tu fais calcul de rendement
Alors, chacun a son calcul
brut, ouais, c'est ça.
Le rendement locatif. À mon avis, le rendement, le calcul le plus adapté pour calcul net, c'est de prendre le prix d'acquisition, l'ensemble des frais inhérents, donc à la fois frais de notaire, à la fois travaux, etc.
Ouais, ouais.
Donc, avoir ce prix global. Ensuite, prendre le loyer net qui nous est versé, donc loyer moins frais de gestion et moins frais de copropriété si vous avez les frais de copropriété.
Ouais, bien sûr.
Là, en l'occurrence, on n'a pas parce que c'est des logements d'habitation. Et donc, du coup, multiplier ce montant par 12 et le diviser par la somme totale.
Ok, donc tu as une rentabilité nette à
entre 10 et 11.
Ok. Ouais. Ah, c'est intéressant, ouais. Et du coup, un ensemble d'habitations, c'est quoi ? C'est des maisons ?
C'est
un lotissement, en fait ?
C'est ça, c'est un lotissement,
ouais. Ok. Du coup, est-ce que vous avez utilisé une stratégie particulière dans la négociation du prix du bien ? Je ne sais pas s'il y avait des travaux. C'était quoi, en fait, votre levier pour acheter en dessous du marché, j'imagine ? Ou en tout cas, puisque la location est. Enfin, si ça se loue à certains niveaux, c'est que. Peut-être que au niveau des prix, soit c'était une baisse au niveau du marché, soit vous avez acheté en dessous du marché. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ?
Exactement. Donc en fait, on avait des propriétaires qui souhaitaient détruire les biens.
Ah oui, carrément.
Qui considéraient que les biens n'étaient plus aux normes.
C'était des vieilles maisons.
Des vieilles bâtisses, ouais.
Ok.
Donc ils en voulaient en fait le prix d'un terrain. Nous, on avait compris qu'on pouvait très bien les réhabiliter. Donc c'est pour ça qu'on a quasiment mis à la fois dans l'investissement le prix d'achat plus le prix des travaux sont quasiment semblables.
Ok, voilà. Excellent.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on a eu un bon effet de levier.
Excellent. Ça, cette opportunité, c'était via votre agence, l'agence de ton frère à Coney ?
C'est ça.
Il y a eu en fait.
Exactement.
Ouais. Ça déborde un peu sur la question aussi que je voulais te poser. En tant qu'agent immobilier, puisque tu as investi aussi pour toi, du coup, vous êtes aussi, au front, première loge pour détecter les opportunités. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que ton métier t'a apporté dans ton propre parcours via trouver ces opportunités, peut-être voir s'il y a d'autres moyens ou d'autres... façon de justement de détecter ces opportunités via votre réseau et voilà. Est-ce s'il y a d'autres choses aussi, je sais pas, au niveau du métier d'agent immobilier, ce qui a pu vous apporter
Alors c'est certain que d'avoir des connaissances dans l'immobilier permet de détecter les bons produits, les bonnes affaires des autres. Mais c'est vrai que dans le marché de l'immobilier, parce que quand tu as la carte immobilière, quand tu es gérant d'une agence immobilière, tu n'as pas de formation à proprement parler. Tu as ta formation initiale qui peut être assez variée. Parce qu'on peut à la fois faire une école de commerce, à la fois une licence de droit, peu importe.
Ouais, ça, c'est ton cas. Tu as eu ta licence, tu as pu avoir ta licence parce qu'il faut demander une autorisation, j'imagine. C'est à la CCI.
C'est à la DE.
À la DE.
Direction des affaires économiques.
Des affaires économiques. Sur présentation du diplôme, il te délivre, tu as des frais, j'imagine.
C'est ça, en fait, on a une caution bancaire aussi à avoir. Une caution bancaire à avoir. Et.
Mon chien est un peu. Affectif.
C'est ça.
Pas de soucis.
Il accueille les clients, c'est bien. On a eu. C'est une caution bancaire également à avoir. Et ensuite, on a l'obtention de la carte, être titulaire de la carte ne veut pas dire être titulaire des compétences pour exercer
l'agent
immobilier. C'est pour ça qu'on apprend tous les jours et je regrette par moment parce qu'on est dans un milieu très, un milieu de requins ici.
Ouais.
On n'a pas pour habitude de collaborer entre agences. Okay. Ça tend à se faire entre quelques-unes, mais d'autres sont assez féroces. C'est-à-dire que chaque affaire peut être... comme on ne fait pas non plus 15 ventes par mois, dès lors qu'on perd une affaire, c'est une grosse partie du chiffre d'affaires qui peut être perdue sur l'année. Okay. Donc, il y a une certaine concurrence féroce entre les agences, mais c'est dommage parce qu'on peut... On peut être amené à avoir des liens communs. Et moi, je suis très amené à demander à certains confrères, je leur pose des questions, soit juridiques, commerciales ou autres. Donc on pourrait céder plutôt qu'être concurrent, à mon avis.
Ah, tu ressens ça quand même. Et tu penses que c'est partout pareil ou c'est vraiment... parce que justement, c'est un milieu insulaire où il y a un nombre limité d'opportunités peut-être. Il y a peut-être autant de concurrence ou c'est, je pense que c'est partout pareil.
Je pense que c'est juste le secteur, c'est pas forcément le secteur de l'activité plus que le secteur géographique qui fait ça. Parce que ici, dans d'autres secteurs d'activité, on peut sentir une certaine entraide entre les personnes. Parce que, dans le milieu oublié, c'est un milieu contre.
Du coup, pour revenir à ce qu'on disait, est-ce que tout t'as des stratégies en fait que tu affectionnes particulièrement toi au niveau de l'investissement immobilier. Si toi tu dois investir par toi-même, si une fois tu trouves une opportunité, quel type de stratégie tu aimes bien adopter en fait. Donc tu m'as parlé de la stratégie acheter dans l'ancien ou à rénover. Ça c'est assez connu du coup, remettre en état pour... mettre en valeur le bien et essayer de le louer cher, plus cher en tout cas, ou carrément le revendre. On peut citer, il y a différents types de stratégies. Tu as la stratégie de la division, si tu achètes un grand appartement pour le diviser. Est-ce que tu as d'autres stratégies ou tu as déjà réalisé des opérations
Alors oui, il y a d'autres stratégies. Bon après, c'est une stratégie qui est assez commune aux États-Unis. Ça s'appelle la vente aux enchères, c'est-à-dire que les personnes sont...
Okay.
Peuvent être saisis de leur bien immobilier pour diverses raisons. Peut-être parce qu'ils sont séparés, qu'ils ne veulent plus payer le bien, ou peut-être parce qu'ils ont des difficultés financières.
On a même fait un épisode du podcast spécial.
Saisie immobilière.
Vente aux enchères.
Vente aux enchères, oui. Donc, ça, après, lorsque j'ai déjà acheté en vente sur saisie, j'essaie d'avoir l'historique du bien, de savoir exactement si les personnes souhaitent quitter le logement ou pas. Quelles sont leurs difficultés actuelles et on peut très bien trouver des solutions pour à la fois permettre aux personnes qui sont saisies de retrouver leurs biens parce que des fois c'est une période un peu difficile qu'elles ont et donc du coup on peut se porter acquéreur du bien plutôt que quelqu'un d'autre se porte les accompagner pendant un an et demi et qu'ils louent le bien une somme et leur permettre après de les accompagner pour qu'ils rachètent eux-mêmes leur même bien.
Ah oui, carrément.
Donc, ça c'est possible mais ça demande du temps et ça demande de bien juger si les personnes sont aptes à le faire ou voir s'ils peuvent l'acheter avec leurs enfants, etc. Mais okay. Les procédures de saisie immobilière sont souvent très rapides. Donc les personnes n'ont pas payé 2, 3, 4 mois de loyer et sont saisies et doivent payer la dette qu'ils doivent. Il y a différents degrés, mais quand ils sont saisis parce qu'ils ont fait une liquidation judiciaire et que le bien était dans la SARL ou si, parce qu'ils n'ont pas payé leur traite de crédit.
Ça va plus vite en SARL, non ?
Oui.
Bah, c'est ça.
Ça va aller plus vite.
Parce que la saisie va avec une procédure d'expulsion, il me semble.
Pas forcément, non, pas du tout. Il y a juste une signification qui est faite par huissier, acte d'huissier aux personnes qui vont être saisies. Et après, il y a une vente aux enchères, donc une audience au crier qui est réalisée. Et donc la personne peut se porter acquéreur lors de cette audience.
Okay.
Et après, elle est propriétaire du bien par jugement. Donc c'est pas un acte notarié non plus. On passe pas par le notaire pour ça. Mais avec cet acte notarié. Elle peut faire la demande d'expulsion derrière, mais c'est assez frais, si elle souhaite faire ça. Je suis jamais friand des procédures d'expulsion. Je préfère qu'on essaie de trouver, surtout qu'on est en Calédonie, donc on est plutôt dans des relations humaines.
On essaie
de trouver un accord ensemble. Donc c'est pour ça que c'est important, avant d'aller dans les ventes aux enchères, d'avoir un historique des personnes, savoir ce qu'elles souhaitent faire, pourquoi elles sont arrivées là. Parce que souvent elles sont saisies, mais pourtant les montants des loyers ne sont pas énormes. Donc c'est souvent des biens qui sont au FSH, donc Fonds Social d'Habitat, pour lesquels elles ont déjà eu
des aides,
pour accéder à la, à la propriété, donc essayer de comprendre comment ils sont arrivés à ce stade.
Et du coup, c'est quoi l'intérêt pour toi, investisseur, d'accompagner la personne pour voir peut-être même qu'elle rachète ce bien? Tu dégages un bénéfice en
bien
fait.
Bien sûr, il y a quand même une plus-value à la sortie lors de la revente du bien.
Donc ils le rachètent peut-être plus cher, plus cher au prix du marché.
Plus cher que, parce que lorsque tu as, en fait, finalement, au lieu qu'ils se fassent saisir et qu'ils perdent leur bien, ils ont quand même eu des loyers, ils ont payé des loyers, donc ils ont en quelque sorte amorti le bien. Donc du coup, la banque ou l'organisme qui saisit demande la mise à prix, donc à minima, ce qu'ils leur doivent. Et derrière, tout ce qu'ils ont payé, bah, du coup, c'est payé, donc c'est amorti. Donc voilà, après, c'est une entente à avoir avec eux. C'est pour leur éviter peut-être pendant un an de ne pas avoir de logement, de loger chez eux et puis derrière de récupérer.
Finalement, c'est un process un peu gagnant-gagnant. Toi, d'une part, tu peux faire du bénéfice sur la décote par rapport à la vente aux enchères.
C'est ça.
Et aussi la revente, peut-être de levier. Et eux, ils ont tout intérêt à garder leur bien, parce que j'imagine s'ils sont expulsés ou en saisie. Je crois que tu perds en fait, tu n'es même pas indemnisé sur la partie que tu as réglée.
Je ne sais pas exactement si. Sur la partie réglée, non, parce que.
Imagine
si la
personne. Ils ont amorti 5 millions.
Non, ils ne gagnent rien là, parce que la personne.
C'est comme s'ils avaient payé un loyer finalement.
C'est ça, voilà.
Donc, c'est 100% de perte, quoi.
C'est ça. Et plutôt qu'ils repartent sur justement un autre loyer, et les personnes sont souvent attachées à leur logement.
C'est carrément une bonne idée, ouais.
Ouais. Ça reste, ça humanise un peu la vente aux enchères qui est souvent un endroit où plus des discordes,
des
affrontements. Donc voilà, il y a toujours des moyens de savoir pourquoi la personne arrive à ce stade-là et si elle a été propriétaire un jour, pourquoi ne pas le redevenir. Donc voilà.
Du coup, toi, t'as réussi à faire un investissement comme
tout à
ça
fait.
En revendant à la personne.
Tout à fait.
Ok, super. Et ça s'est bien passé.
C'est bien passé.
T'as pas eu de difficultés ou de.
Ça a duré un an, donc la personne pendant un an avait des difficultés à payer un peu le loyer, etc. Mais on a réussi à trouver, sa situation s'est stabilisée, elle a pu.
Et là, dans ton cas, sans rentrer dans les détails, c'était quoi la source du problème de la personne? Elle n'avait pas de.
Son mari avait perdu son emploi et puis ils étaient un peu séparés et finalement ils se sont remis ensemble et puis.
Voilà. Avec des trucs de la vie, quoi.
Voilà,
tout simplement.
Tout simplement.
Ok, ouais, carrément intéressant, tu vois, j'en avais jamais entendu parler.
Mais donc, c'est moi qui ai fait pour eux leur crédit, etc. Après, je les ai accompagnés vraiment de A à Z pour leur demande de financement.
Ouais, en plus, ouais, tu les as accompagnés.
Et je n'aurais pas fait que les loyers pendant un an également. Enfin, quasiment rien.
Carrément. Et t'as, au niveau des bénéfices, tu as pu dégager, tu peux nous dire un montant ou.
Ouais, c'est.
Ou un ordre d'idée.
Un ordre d'idée, ouais, on a fait. Un bon bénéfice. On va dire qu'on a fait un bon bénéfice. On n'est pas trop chiffre.
Ok.
Mais à mon bénéfice.
Dans les achats, dans les opérations d'achat-revente, c'est quoi que tu considères un bon chiffre? Disons que, imaginons, j'achète un bien à rénover 20 millions, travaux compris. Et moi, personnellement, tu vois, en étant investisseur débutant, je me dis en achat-revente, indépendamment de tous les frais comptabilisés, etc. Si je le revends, on va dire, 23 millions, je me dis, c'est bien.
15%.
Ouais, 3 millions de plus-value. Après, à partir de 5 millions, je pense que c'est vraiment très très intéressant. Du coup, ouais, c'est ce que tu considères comme chiffre ou...
Oui, je pense que voilà, ça dépend de l'engagement mis sur la table. C'est-à-dire que, il faut considérer 30% de plus-value qui est vraiment... une bonne rentabilité, donc là si tu mets 20 millions sur la table, avoir 26 millions c'est un bon coup.
Okay.
Avoir en dessous c'est un coup qui est bien, mais c'est pas non plus
c'est pas extraordinaire.
Extraordinaire.
Toute charge déduite, hein.
C'est ça, ouais.
D'accord. Quand tu achètes un bien en tant que particulier, tu payes les frais de notaire, à la revente encore des frais de notaire qui s'ajoutent, du coup la plus-value est difficile quand même, pas forcément évidente
à calculer,
à optimiser, je dirais.
Ouais. Bah, si je vois que les frais de notaire viennent rogner sur la plus-value, mais après il est possible également de se mettre en tant que marchand de biens.
Ouais. Justement, je vais dire.
Ça permet d'avoir des frais de notaire, donc des droits d'enregistrement réduits.
Parce okay.
qu'on s'engage dans les 5 ans à revendre le bien. Mais derrière, ça oblige à être imposé à l'impôt sur la société. Et donc, du coup, de payer un impôt sur la plus-value qu'on réalise. Après, cet impôt peut être optimisé parce qu'on crée des charges en faisant des salaires ou en faisant des frais de fonctionnement ou autre. Et donc, ce qui permet de réduire l'imposition. Mais dans tous les cas, il faut payer un impôt, que ce soit par l'intermédiaire des droits d'enregistrement, parce que le droit d'enregistrement, c'est un impôt, que ce soit par l'impôt sur la société.
Et aujourd'hui, n'importe qui peut s'improviser entre guillemets marchand de biens, ou tu as besoin d'une carte spéciale?
Non, il n'y a pas de carte, il faut se déclarer en tant que marchand de biens.
C'est quoi, c'est une patente de marchand de biens finalement?
Ouais, complètement.
Et du coup, ça t'autorise à faire de l'achat-revente, tu payes ta patente, et tu disais, tu as un impôt sur les sociétés, donc ta patente c'est comme une société en fait.
C'est ça.
Mais tu as sauf que t'es tout seul quoi.
T'es gérant de la SARL.
Ouais, tu crées une SARL quand même.
C'est ça.
C'est
ouais.
pas une patente en nom propre.
Non, c'est une SARL.
Ouais. Ouais, donc tu as des statuts, etc. C'est une vraie société.
Ouais.
D'accord. Et la fiscalité sur la revente, elle est de quel ordre en fait
pour un marchand de biens?
Ouais. Alors, c'est un pourcentage sur la plus-value en fait comme...
Bah, le pourcentage en fait c'est l'impôt sur la société. Mais c'est juste ce qui est intéressant pour lui, c'est qu'il peut acheter avec des droits d'enregistrement réduits, donc
okay.
5-5 au lieu de 9.
Okay.
Et derrière, il peut revendre, il l'oblige à revendre dans les 5 ans. Donc c'est ça qui est intéressant. Il gagne en gros 3% de droits d'enregistrement, donc 3% sur son prix de vente.
Ah ouais. Donc ça, c'est bien ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie.
Ouais.
Parce que je crois qu'il me semble qu'il y a encore des frais de notaire inférieurs, il me semble, à métropole. Si c'est pas 3-4%, un truc comme ça.
Je
suis pas sûr, mais.
Je maîtrise pas.
Donc pour les auditeurs de métropole qui parlent en euros, on parlait de plus-value justement de 3 millions francs CFP, ça correspond à quoi, 25 000 euros à peu près.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc sur un bien, voilà, sur un bien à 20 millions qui est de l'ordre de 150-160 000 euros. Quoi. Alors, est-ce que tu voudrais me partager un peu des stratégies justement avec type d'investissement en société, nous raconter peut-être par rapport à ton expérience, ta vision des choses. On parle souvent de SCI, la Société Civile Immobilière. On parle de SCI familiale dans le cadre de la construction d'un patrimoine familial. Il y a aussi des SCI qui sont imposées à l'impôt sur les sociétés ou sur le revenu en fonction du choix. Il va y avoir des particularités, des avantages au niveau fiscal. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça et présenter les avantages
d'acheter en SCI ou d'acheter en nom propre, c'est ça?
C'est ça, au niveau, en fait, c'est une question assez ouverte. De par toi, ton expérience, si tu as déjà acheté en SCI et l'avantage que tu en as tiré, pourquoi tu l'as fait, disons, et nous expliquer un peu les différences qu'il y a par rapport à d'autres types de sociétés ou alors par rapport au nom propre.
Alors, sans rentrer dans les détails juridiques de l'acquisition en SCI, je pense qu'il est intéressant, c'est que lorsqu'on est propriétaire d'une SCI, enfin de part sociale de SCI qu'on achète par cet intermédiaire-là, c'est qu'on crée un autre compte bancaire qui est le propriétaire du bien et qui paye les traites. Et en l'occurrence, ça ne s'impacte pas sur nos comptes perso. Donc dès lors, on peut faire une SCI avec une banque, aller voir une autre banque avec nos comptes actuels, sans forcément être impacté par une capacité d'emprunt qui est rognée. Donc ça, c'est une astuce parce que beaucoup de gens le font.
Okay.
Pas forcément... c'est pas illégal non plus, mais c'est-à-dire qu'on déclare, on certifie l'exactitude des renseignements qu'on a donnés, mais on a peut-être oublié quelques renseignements.
Oui, tout à fait. Oui. De toute façon, aujourd'hui, si tu veux vraiment te construire un patrimoine pour la retraite, entre guillemets... tu dois, entre guillemets, justement, essayer de développer différents canaux d'investissement. Et c'est sûr, sinon, tu es très, très vite bloqué par les banques. Hein.
C'est ça. C'est ça. Donc, c'est pour ça que ça permet d'avoir une capacité d'emprunt vierge quand on va voir une autre banque. Donc, c'est intéressant d'acheter un essai. Après, les éléments juridiques, je pense qu'on a sûrement déjà parlé.
Ouais, on en a parlé parfois avec les autres invités du podcast. Notamment l'intérêt de la déduction de l'amortissement du bien quand tu es en régime l'impôt sur les sociétés. Je trouve que c'est vraiment le principal avantage. En nom propre, dès que tu commences à avoir 3-4 biens, au niveau fiscal, bah, tu bah, es fortement imposé, quoi.
Après, c'est un avantage et un inconvénient, parce que derrière, sur la revente, étant donné qu'on n'a pas d'impôt sur la société, enfin, pas d'impôt sur la plus-value ici actuellement, lorsqu'on revend une SCI à l'IS, quand un bien lié d'une SCI à l'IS, du coup, on a quand même un impôt, vu que sur une SCI à l'IR, on n'a pas d'impôt, puisque c'est transféré.
Il n'y a pas de fiscalité à la revente en nom propre, hein, c'est ça que tu dis?
Oui, c'est ça, il n'y a pas de fiscalité sur la plus-value réalisée.
Ouais. Que ce soit en nom propre ou avec une SCI à l'IR?
C'est ça. Okay. Mais à l'IS, il y en a une, du coup, parce que c'est, le bien fait partie de c'est la société. Ouais.
Du coup, c'est quoi? C'est l'impôt sur les sociétés, en fait, par rapport à la plus-value, par rapport au bénéfice, quoi, avoir la plus-value réalisée.
C'est ça.
Un peu comme la SARL, finalement,
c'est
au
ça.
Marchand de biens.
C'est ça, exactement. Okay.
Dis-moi, au niveau du temps que tu as, ça, on a encore quelques minutes.
Quelques minutes, oui. On est juste.
Yes. Je te propose de passer aux trois questions que pose tous les invités qui passent au micro de ce podcast. Est-ce que tu peux nous citer une référence qui t'a inspiré, un livre, un site internet, un auteur que tu souhaiterais partager avec les auditeurs, qui t'a inspiré toi dans ton parcours en lien avec l'immobilier ou dans ta vie perso?
Alors, il y a un film dernièrement sur McDonald's.
Ok.
Ouais. Enfin, pas McDonald's, mais pas les frères McDonald's, mais celui qui a permis à la firme de devenir ce qu'elle est.
Ok.
J'ai d'ailleurs, je ne sais pas son nom, mais je peux le retrouver rapidement avec deux clics. C'est ça, Raymond Ray Kroc. Donc ça s'appelle Le Fondateur. Donc, il y a un film assez récent, 2016. Et dans le film, on voit qu'il a des difficultés malgré l'expansion du business.
Okay.
Il a beaucoup de difficultés à réussir à gagner de l'argent. Et au final, il se rend compte que grâce à une rencontre avec un financier, que le plus important, c'était d'être propriétaire des murs, qu'il n'était pas avant.
Donc, okay.
Il est devenu propriétaire de l'ensemble des autres franchises qu'il a pu créer. Et c'est grâce à ça qu'il a fait fortune.
Voilà. Ok, en devenant propriétaire
des murs qui exploitait la société, ouais. McDonald's.
Ouais, c'est vrai, McDonald's, ils ont toute une stratégie sur l'immobilier, sur le positionnement, l'achat des meilleurs emplacements. C'est l'histoire, je connais un peu l'histoire, j'ai pas vu le film, mais je crois qu'il y a plein de bouquins aussi sur ça, carrément. Bah, merci, je partage. Deuxième question, est-ce que tu as un proverbe ou une phrase inspirante qui te plaît?
Ça n'a aucun lien avec l'immobilier, enfin, ça dépend de ça peut. C'est heureux l'homme qui n'a jamais fini de s'émerveiller.
Ok.
Je pense que c'est important d'être toujours positif dans la vie. Et garder des yeux d'enfant.
Yes, c'est une citation de développement personnel.
C'est
un peu.
Ça.
Ouais, carrément, moi je suis un grand fan de développement personnel aussi. Ok, c'est de qui? C'est de toi ou
Alors, pas du tout.
Ça a peut-être une référence, ou je retrouverai peut-être sur internet.
Ouais, je crois que c'était un auteur libanais, mais je suis pas sûr.
Du coup, dernière question, qu'est-ce que tu dirais à un jeune Calédonien, une personne qui souhaiterait investir ou acheter un appartement, une maison? Soit pour se loger, donc sa résidence principale, soit pour investir en immobilier locatif, mais qui n'ose pas se lancer. Par peur, les diverses peurs qu'on peut connaître.
Alors, il est important de prendre son temps. Je pense que c'est un investissement immobilier, c'est quand même un investissement qui se fait sur 15, 20, 25 ans. Donc, comme on peut le dire ici à nos clients quand ils cherchent à l'acquisition, il ne faut pas se précipiter, surtout lorsqu'on fait un achat pour soi. Et par contre, une fois qu'on a défini, qu'on sait ce qu'on veut, il faut y aller, parce que dans tous les cas, comme on l'a souvent dit dans tes podcasts, lorsqu'on paye une traite de crédit, c'est pas un loyer qu'on perd, parce que lorsqu'on est locataire, c'est de l'argent, c'est de la trappe à la liquidité, donc c'est de l'argent perdu. Donc, une fois qu'on est sûr de ce qu'on a, il vaut mieux y aller. Mais il faut prendre son temps pour choisir la bonne chose. Voilà.
Yes. Bah, merci beaucoup pour ce partage, cet échange d'expérience. Est-ce que tu souhaiterais faire passer un message justement par rapport à ton activité? N'hésite pas, maintenant c'est à toi si tu veux justement
parler. Oui, bah alors là, du coup, étant donné que le marché en Nouvelle-Calédonie est assez freiné ces derniers temps, on a décidé de s'implanter au Vanuatu.
Okay.
Donc qui est un pays qui est indépendant depuis 1981 et donc qui connaît une expansion à deux chiffres depuis plusieurs années avec un tourisme florissant et donc du coup une activité immobilière qui est en expansion. Donc
okay.
On va créer une agence normalement là-bas sur place et être la dernière à dire parce que c'est à 50 minutes de vol d'ici, donc vraiment à côté, et les Calédoniens connaissent bien. Donc voilà.
Ok. Du coup, l'agence n'est pas ouverte encore?
Pas encore, normalement en cours de l'année.
Les gens, s'ils sont intéressés pour investir,
ils passent par Vanuatu,
peuvent te contacter.
Voilà.
Est-ce que tu peux nous laisser justement tes coordonnées, les sites internet, comme ça on remettra tout en note de l'épisode du podcast?
Donc c'est www.topimo.nc. Et après, mes coordonnées, c'est les 90 13 37 par mail à alexandre@topimo.nc.
Yes. Parfait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Merci et bon courage pour la suite. J'espère qu'il y aura d'autres personnes qui pourront partager leur expérience. C'est toujours une bonne chose.
Complètement, ouais, complètement. Je trouve que y a déjà quelques personnes qui ont participé localement. C'est vrai que j'ai beaucoup de réticences, tu vois, sur les dernières demandes d'interview. J'ai eu des refus, des gens qui ne souhaitaient pas justement s'afficher. Ou des gens qui sont très très occupés, et donc je comprends, hein, c'est clair que dans nos métiers, ton chien est en train de manger les annonces immobilières. J'espère que c'était pas un bien important.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Tu l'avais imprimé. Ouais, ok. Du coup, je sais plus ce que je disais.
Qu'ils étaient un peu réticents.
Ouais. Mais je perds pas espoir, parce que là, prochainement, on va interviewer des notaires. Essayer d'interviewer des huissiers, d'autres banquiers, des promoteurs, vraiment toucher un peu tous les corps du métier de l'investissement immobilier et partager des infos. Parce que je pense que la connaissance, ça ne va pas voler des opportunités à ceux qui en ont déjà. Je pense que c'est bien justement de, comme tu dis, on est un peu dans un monde de requins, de communiquer, de parler, de partager et après à chacun de faire, d'être plus malin peut-être que les autres pour tirer son épingle du jeu, repérer des biens ou faire créer son opportunité en fait, parce que franchement il y a des opportunités partout et donc c'est comme ça se fait ailleurs, je pense c'est bien de poursuivre ça et de développer à fond ce podcast et toutes les informations qu'on pourra avoir autour dans la région Pacifique, pas forcément qu'en Nouvelle-Calédonie, à Tahiti, à Vanuatu et au ski. Il y a des agences qui agissent en Nouvelle-Zélande et en Australie. Je vais bientôt contacter aussi. Voilà. Okay. Merci en tout cas beaucoup pour ton accueil et peut-être à bientôt pour de nouveaux échanges sur ces sujets.
Merci à toi.
Merci Alexandre. Allez, ciao.
Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode du podcast. Alors, puis-je vous demander un petit service? Laissez un commentaire sur iTunes. Cela aidera d'autres personnes comme vous à trouver le podcast et à être inspiré par les professionnels et entrepreneurs interviewés. Je vous dis merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode du podcast Focus Immo Pacifique. Ciao.